au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour et soyez les bienvenus dans cette Au fil des pages consacrée à la langue française et à un ouvrage qui fera sans doute date, parce que vous savez que la langue française, on a l'habitude évidemment d'en parler, mais on fait le point régulièrement avec des spécialistes, c'est vrai, mais pas forcément des journalistes qui étudient, qui auscultent la langue à travers le monde et qui nous donnent un petit peu un miroir de ce qu'elle représente aujourd'hui et de son influence. Le français, quelle histoire avec un grand point d'exclamation. Le français n'a pas dit son dernier mot, c'est aux éditions Télémac et c'est signé Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlot. C'est Jean-Benoît Nadeau qui est avec nous. Bonjour Jean-Benoît Nadeau.
Bonjour.
Alors votre accent est un peu une signature.
Hey.
Évidemment, vous venez de Montréal, journaliste au magazine Actualité. Vous étiez venu sur notre antenne, c'était en 2005, pour Passifou, c'est français.
Oui.
Donc vous avez l'habitude quand même de ce genre de, j'allais dire, d'approche un peu culturelle et puis d'approche en profondeur et en même temps amusée, parce que l'humour est une dimension très importante de votre démarche, je crois, Jean-Benoît Nadeau. Alors le français, quelle histoire avec un point d'exclamation. J'avais moi un point d'interrogation, c'est que quand même, aujourd'hui, il y a une propension à voir le français décliner partout. Mais vous, non. Vous le voyez, il se porte bien, en pleine forme. C'est ça?
Mais en fait, c'est une particularité de la culture française d'avoir un côté bipolaire. C'est l'optimisme. Un joueur de foot envoie un ballon dans un but et là, tout va bien. Et là, après ça, on ne sait pas très bien pourquoi tout se remet à aller mal. L'apologie de la France est un genre littéraire qui date de 1000 ans et la critique outrancière de la France est aussi un genre littéraire qui date, lui, d'environ 2 siècles et demi. Et souvent, on voit des gens dire toutes sortes de choses sur la France ou ses attributs, dans ce cas-ci, la langue.
Les Français ne s'aiment pas, estimez-vous, en fait.
Ils s'aiment, mais ils ont la critique, je crois, outrancière facile. Je crois que c'est la bonne façon de le résumer. Et pourtant, c'est là qu'est le paradoxe, la langue française n'a jamais été autant parlée dans son histoire que maintenant.
220 millions de locuteurs.
Et même en Europe, même à l'époque de la gloire du français, là on parle du 18e siècle, il n'y avait pas 25% des Français qui avaient le français pour langue maternelle. Et là, maintenant, la France s'est francisée. Et même à l'époque où elle était langue des élites européennes, c'était une époque où c'était strictement un phénomène urbain d'élite de cour dans un contexte d'une Europe entièrement non scolarisée. Donc... Et même en Afrique maintenant, même dans les Amériques, il y a beaucoup de francophones, plus que les 8 ou 9 millions de francophones de langue maternelle.
Alors, ce que vous avez voulu faire, Jean-Benoît Nadeau, ce n'est pas une histoire en soi du français, c'est une histoire de cette expansion française que les Français connaissent peu.
C'est une biographie de la langue. On fait de la linguistique un peu, mais on en parle comme d'un phénomène sociologique et politico-économique, parce que ce qui véhicule une langue, ce n'est pas sa beauté. Ce sont des individus qui la jugent utile ou nécessaire. Et donc, nécessaire pour leur carrière, utile à leurs besoins économiques. Et c'est ce qui véhicule une langue. Et
donc, le projet politique.
Le projet politique, le projet économique, le projet diplomatique, toutes ces sphères d'activité-là sont importantes. Actuellement, je suis en cours de rédaction pour un autre livre sur la langue espagnole. Et une des choses qui me frappe le plus...
En expansion également.
Oui, mais ce qui est le plus fascinant de l'espagnol, c'est que c'est une langue qui est largement dominée par ses locuteurs de langue maternelle, 400 millions de personnes environ, mais très peu de gens apprennent l'espagnol. Si on compte les États-Unis, le Brésil et la France, on a là 70% de toutes les personnes qui apprennent l'espagnol dans le monde. La France étant le pays d'Europe, hors l'Espagne, où on étudie le plus l'espagnol, autant que dans tous les pays d'Europe combinés. Alors, c'est en France. Mais en dehors de ces trois pays-là que je vous ai nommés, l'espagnol n'avance pas très profondément.
Il a une expansion endogène qui est liée à sa population. Mais on n'apprend pas l'espagnol. Combien de personnes apprennent le français, Jean-Benoît Nadeau, qui ne sont pas des locuteurs francophones?
Actuellement, on parle de plus de 110 millions. La majorité, bien évidemment, dans des pays francophones, dont la plupart ne sont pas à dominante de langue française. Donc, un jeune garçon de Tambacounda, par exemple, au Sénégal, pour avoir son permis de conduire, doit apprendre le français parce que sa langue maternelle, à lui, c'est probablement le Wolof. Bref, le français est parlé. Les gens de langue maternelle française sont une minorité dans la langue française. Et c'est un profil extrêmement particulier que partage l'anglais, et c'est tout. Aucune autre langue internationale à ce profil-là.
Aucune langue n'est apprise pour elle-même par des personnes qui ne la parlent pas en soi dès le départ.
Exactement.
Mais alors, pourquoi apprend-on le français, Jean-Benoît Nadeau, alors qu'on pourrait s'interroger sur le projet politique français aujourd'hui, qui est quelque peu nébuleux, si vous me permettez cette prise de parti?
C'est parce que, en fait, le français n'appartient pas à la France depuis très longtemps. C'est une des particularités du français que de s'être exporté, d'avoir commencé à se véhiculer à l'extérieur de la France ou de son domaine d'origine, qui était plus exactement la partie nord du pays, de s'être exporté très rapidement et très tôt. Et c'est encore le cas. Et nous, une de nos découvertes, c'est que plusieurs des coups sévères qui ont été portés à la France dans son histoire ont souvent profité aux Français en créant des foyers autonomes de la langue, des foyers par lesquels le français avance sans nécessairement avoir besoin de la France. Et une des particularités en ce moment qui explique en partie la myopie des Français vis-à-vis de la situation de la langue, c'est que la français est devenue multipolaire. Par exemple, j'ai rencontré un vétérinaire en Algérie qui lisait le bulletin des agriculteurs du Québec. Alors, bref, un Algérien qui veut faire du vétérinariat peut aussi bien aller chercher une source québécoise qu'une source belge. Il y a au Sénégal des agronomes vietnamiens qui expliquent comment faire le riz. Donc, il y a toute une circulation qui se passe en ce moment.
Le lit de la rivière, le lit des agronomes.
Le riz, oui, c'est ça.
Le riz, pardon. Ah oui, le riz.
Et donc, il y a toute une circulation dans l'univers francophone qui échappe à la France. Et c'est en fait un signe de vitalité. Le français, en ce moment, est plus enseigné au Vietnam, au Cambodge, au Laos, maintenant qu'à l'époque de l'Indochine française.
Alors voilà, c'est ce que vous dites, hein, notamment. Hein, il y a plus de gens qui apprennent le français là-bas qu'au temps de l'Indochine.
Oui, et pourquoi? Bien, largement à cause de l'AUF, de l'Agence universitaire de la francophonie, qui réseaute, on utilise ce terme-là au Québec, réseauter pour
réseauter, networker, ça existe aussi ici.
Qui réseaute tous ces gens-là et donc qui rend le français utile. Certains s'en plaignent. Bien, ils l'apprennent parce qu'ils veulent avoir accès au réseau.
Vous qui vivez aussi bien en anglais qu'en français, Jean-Benoît Nadeau, et d'ailleurs Julie Barlow est anglophone.
Oui, c'est sa langue maternelle.
Votre épouse. Comment voyez-vous ce rapport? Vous avez dit que le français partage avec l'anglais cette singularité que des personnes d'un autre univers ont envie de l'apprendre. Est-ce qu'on est en rivalité avec l'anglais sur ces foyers? Je pense à l'Indochine, tenez, puisque vous parlez justement de l'Asie du Sud-Est. Les Anglais aussi ont quadri, si je puis dire, le monde en fonction de la pénétration de leur langue.
Oui, il y a des réseaux de rivalité, mais je crois qu'une des graves erreurs, c'est d'assumer que les langues sont un jeu à somme nulle, parce que l'anglais monte, le français régresse. Non, les langues s'additionnent. Et par exemple, on note actuellement un intérêt en Afrique, un intérêt naissant pour le mandarin, et dans certains pays d'Afrique francophone, comme le Sénégal, un intérêt pour l'anglais. On en voit un. Mais ça ne veut pas dire qu'ils désapprennent le français. Et souvent, ils apprennent l'anglais ou le mandarin après avoir appris le français. Ils ne l'oublieront pas. Et le fait d'être francophone signifie qu'on a des identités multiples. Un Sénégalais qui parle le français, ben, quand il est avec ses compatriotes, il ne parle pas le français, il est plus francophone. Du moins qu'il ne parle pas sa langue à lui. Et quand il vient à Paris, le français devient sa langue d'usage. S'il va aux États-Unis, ben, il va peut-être parler en français quand il côtoie d'autres francophones, mais le reste de sa vie, il va la vivre en anglais, ce qui n'en fera pas moins un francophone. C'est simplement que certains épisodes d'une vie, quand on est dans un cadre multilingue ou polyglotte, on peut avoir des identités multiples.
Donc le français peut s'additionner, bien sûr.
Oui.
Jean-Benoît Nadeau, donc je rappelle, hein, le français, quelle histoire? Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le français est appris essentiellement par des populations issues de pays pauvres ou moins riches que les autres, par les pays du Sud?
C'est un profil qu'on observe en ce moment. Et vous savez, ce qui porte le français à l'heure actuelle, c'est l'Afrique. Mais il reste tout de même très enseigné ou très demandé, par exemple aux États-Unis ou même au Canada, dans les autres provinces, les provinces autres que le Québec. Mais c'est certain qu'un certain avenir du français sera au sud de la Méditerranée. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'on assiste à l'heure actuelle, il y a beaucoup de clichés sur l'Afrique, mais on assiste à l'heure actuelle à une transformation, à une montée de la classe moyenne en Afrique, partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ce sera sans doute très fécond pour la langue. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura d'autres foyers du français, qu'il va se créer des normes nationales diverses et que le français va devoir apprendre à vivre avec cette notion qu'il est une diversité dans son bon parler. Mmh. Ce qui n'est historiquement pas l'idée d'où on vient, mais par exemple, les phénomènes de la vitalité du français en ce moment, c'est précisément la multiplicité des normes, des cadres, des dictionnaires, des normes nationales. Le Québec qui féminise les titres et fonctions en 77, modification qui a été adoptée par les Belges et les Suisses. Donc, il y a des foyers de normes distincts. Et ça fait partie de la beauté du propre d'une langue internationale.
D'avoir des foyers de normes?
Oui.
Hmm. Qu'est-ce que vous entendez par foyer de normes?
Par exemple?
Que la langue se définit de manière stricte?
Oui. On a une fausse idée que le français est strictement défini, par exemple, par l'académie ou par des entités officielles.
Par des institutions?
Non. Le français se définit globalement, je le dirais, au privé, dans ce sens que c'est l'usage général de la population qui détermine la langue dans ses échanges quotidiens et qui établit la norme qui change de génération en génération. Mais il y a tout de même des normes, des standards nationaux sur certains éléments. Par exemple, au Québec, le gouvernement a féminisé les titres et fonctions. Ce à quoi les Français ont résisté pendant un certain temps, beaucoup moins maintenant.
Mmh. À titre personnel, vous d'ailleurs, que pensez-vous de cela? Parce qu'on dit que le masculin est aussi le neutre. C'est ce que l'on dit chez nous.
Oui, oui. Mais en même temps, la société, le masculin était le neutre à une époque où les femmes comptaient pour peu. La société a évolué, les femmes ont un rôle différent, donc on va voir dans la langue des manifestations de ces changements de valeurs-là.
Donc il faut dire une acquéreuse,
Ou une acquéreure.
Ou une acquéreure.
On ne dit pas au Québec une ingénieuse, on va plutôt dire une ingénieure. Mm. Donc c'est un peu l'usage.
Un maître chien, ça fait une maîtresse chienne.
Une maître chien, probablement. J'ignore quelles vont être les modifications, les usages qui vont prendre cours. On dit une policière, on ne dit pas une policier.
Une postière,
une
etc.
postière, une factrice même.
C'est un enjeu donc de la langue que vous décrivez, que les foyers autonomes du français définissent leur langue en fonction de normes qui ne sont pas forcément des normes centralisées.
Exactement. Et c'est le propre de toutes les langues internationales. Mm. L'espagnol, figurez-vous, a 22 académies.
22 académies d'espagnol.
Et toutes ces académies collaborent à une réelle norme internationale, tout en ayant leur norme nationale.
C'est une forme de vitalité.
C'est une forme de vitalité.
Le français, quelle histoire? Jean-Benoît Nadeau, Julie Barlot, aux éditions Télémac, je le rappelle, biographie du français. On peut peut-être s'attarder sur certains points que vous évoquez, que vous donnez comme ça d'ailleurs dans votre fiche récapitulative, Jean-Benoît Nadeau. Il y a des choses un peu qui interpellent parce que vous dites 6 à 12 millions d'Américains parlent français, tout comme la moitié de la population algérienne, 10% de la population israélienne. C'est vrai que le français est parlé dans certaines régions du monde, quand on se déplace, ça peut surprendre. 6 à 12 millions d'Américains, vous parlez des Américains qui sont anglophones ou vous parlez également des francophones?
En fait, le nombre d'Américains de langue maternelle française est d'environ 1,5 million et 2 millions. Mais il y a à chaque année 1 million d'Américains qui étudient le français.
Alors, ces Américains-là, c'est la question que je voulais poser par rapport aux pays du Sud. Est-ce que le français est appris par les élites mondialisées, celles qui détiennent le pouvoir dans les entreprises, dans la vie économique, dans les sciences, dans les techniques?
Oui, toujours, mais à un niveau sans doute moindre que ce qui en était il y a 50 ans. Quoique, on observe aux États-Unis que le nombre de personnes qui apprennent le français est constant. Depuis 30 à 40 ans, il y a eu certains hauts, certains bas, mais c'est toujours le même nombre. Donc, par exemple, aux États-Unis, largement, les élites scolarisées apprennent le français. Bien sûr, elles apprennent aussi l'espagnol, et c'est tant mieux. L'espagnol est en train de devenir une langue nationale aux États-Unis. Donc, il est évident que l'espagnol surclasse le français là-bas. Mais le français se maintient. Dans de nombreux pays, on observe la même chose. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça a baissé en Israël, mais dans certains pays comme l'Arménie ou la Géorgie, c'est plutôt en hausse. Donc, c'est un phénomène qu'on s'explique de diverses façons et ça obéit à des causes nationales propres. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles.
Entre optimisme et fatalisme, écrivez-vous, une ou deux choses sont claires. Le français reste une langue mondiale que bien des gens apprennent parce que c'est une langue de diplomatie, de science et d'affaires, d'idées et de culture. On peut donc exprimer beaucoup de choses en français. C'est peut-être l'accès au concept aussi qui explique le fait que cette langue soit répandue. À l'époque de Louis XIV, c'est ce que vous disiez, 20% à peine des Français parlaient français. Mm. Donc avaient accès à la pensée. Ça ne veut pas dire qu'on ne pensait pas dans les autres langues.
Ben non, tout à fait. Et c'est une boutade très fausse que d'assumer que parce que quelqu'un n'avait pas le français pour langue maternelle ou ne le pratiquait pas, n'avait pas de pensée. C'était à l'époque de Rivarol, on parle du 18e siècle, le français, langue universelle.
Le vêtement de la pensée.
Oui, l'esprit pense en français se traduit en d'autres langues. Et c'est drôle, quand on lit Rivarol, on transpose son texte, on change le mot français pour le mot anglais. Et il y a plusieurs passages de son texte qui ressemblent exactement à ce qu'on lit sur l'anglais à l'heure actuelle. Donc, beaucoup plus intéressant que Rivarol était son co-lauréat, qui était Schwab, Christoph Schwab, qui était un Allemand, et qui avait fait une description du français comme langue universelle, où il expliquait que la raison pour laquelle le français était langue universelle, c'est qu'il y avait des élites qui l'apprenaient, et l'exode des Huguenots, l'exode par la suite des révolutionnaires, il ne l'a pas vu venir lui non plus, mais a dispersé le français dans les capitales européennes. Et bon, on ne peut pas constamment exiler 200 000 ou 300 000 Français pour aller... Et aussi le fait que, par ailleurs, le français est entré en concurrence en Europe avec d'autres langues nationales importantes. Au 19e siècle, il y a eu la montée de l'Allemagne, l'apparition de l'Italie en tant qu'État-nation. Ça a privé le français de certains de ses marchés traditionnels. Je l'utilise un peu en boutade. Mais pendant ce temps-là, il a continué de monter ailleurs. Et c'est ça l'histoire du français, c'est qu'il va baisser à certains endroits et monter à d'autres qu'on ne soupçonne pas.
Alors, précisément, puisque vous dites « ça monte à certains endroits, ça descend à d'autres », et vous avez un chapitre « La fin du français » avec un point d'interrogation, je voulais que vous répondiez aux déclinistes, en quelque sorte, qui disent « le français décroît inéluctablement, y compris en France, où il y a un effacement progressif de la culture française qui se trouve supplantée par d'autres modes, l'anglais que l'on voit partout sur les pancartes, les publicités. Mais je vous donne deux exemples de points justement où le français était présent, l'Italie et l'Espagne. Et l'Italie, il y a un recul assez net du français en Italie. Mmh. Et pour les journalistes, ça pose un problème quand on va couvrir certains événements, ou en Espagne aussi, où certaines publications ne sont plus traduites en français parce qu'on les traduit en espagnol, en anglais et une autre langue, et on oublie le français par certains moments, alors que ce sont nos voisins immédiats où l'on pensait être présent.
C'est vrai. Ben, c'est un défi pour ceux qui se font un travail de faire la promotion de la langue française dans le cadre de votre diplomatie culturelle. Mais je pense que où le français souffre à l'heure actuelle, ce n'est pas pour ce qu'il a à offrir, c'est une carence au niveau de l'information. Il n'y a que TV5 qui a un mandat à propos d'une vision mondiale du français. Il n'existe pas de presse écrite, de magazine à vocation francophone mondiale. Ben, en fait, il y en a un qui s'appelle Zigzag, qui est français, qui est tout nouveau, et qui fait du boulot phénoménal, et qui mériterait d'être répercuté partout. Mais on n'a pas eu, parlant français, l'ambition de créer l'équivalent d'un International Herald Tribune, qui est un journal parisien, et qui a pour mission, depuis 1880, de donner le monde en anglais au monde. C'est sa mission. Et il n'existe pas une telle chose. Il existe des médias, des journaux, des magazines français qui ont une ambition d'avoir une distribution internationale, mais il n'existe pas un webzine ou quelque chose du genre qui a vraiment une vocation d'asseoir une information du monde en français, qui privilégierait bien évidemment l'univers francophone au même titre que l'International Herald Tribune privilégie l'univers anglophone.
Donc on ne pense pas médias, on ne pense pas vitrine.
Non. Et à mon avis, c'est une carence. Parce qu'au fond, la France sera toujours la locomotive de la langue française pour très longtemps. Mais on pense un peu trop à la locomotive et on oublie les wagons. Et il y a tout un contenu dans la langue française qui est en dehors de la France et qui serait susceptible d'intéresser tout autant les Espagnols que les Italiens. Et à mon avis, on néglige cet aspect-là.
Donc manque de coordination, manque de vision.
C'est ça.
C'est peut-être un défaut de vision, alors que l'expansion est réelle, existe.
Elle est réelle et il y a un dynamisme culturel très, très fort qui n'est pas couvert, qui n'apparaît pas.
À quoi le voyez-vous?
Ben justement, encore là, c'est que je pense que les pays francophones en général, les francophones de toute origine, ont tendance encore un peu par réflexe à s'en remettre aux Français ou aux Belges. Et moi, je dis, quand donc un Libanais établi à Toronto va-t-il lancer avec un rédacteur en chef sénégalais et un responsable de la pub et un éditeur belge une revue francophone internationale réelle qui parlerait du monde en français? Et parce que le français est une langue monde, littéralement, et on a un discours au niveau des médias qui est un peu à sens unique et qui ne correspond pas à... Moi, je l'ai observé aux États-Unis. Les Américains qui ont plus de 50 ans, pour eux, la France, c'est l'échappatoire. C'est le modèle contraire. On veut faire français pour toucher une autre culture. Les jeunes de moins de 35 ans cherchent du francophone, dont la France fait partie. Mais eux, ils vont lire de la littérature antillaise. Ils vont s'intéresser à la création de Danny Laferrière. Ils vont aller chercher de la musique sénégalaise, chantée en français ou en wolof, mais dont les interprètes sont tous francophones. Eux s'intéressent à ça. Et je suis l'intime conviction que l'espagnol qui serait francophile ou italien recherche la même chose. Il recherche une vision du monde qui corresponde à l'espace réel de la langue et pas seulement un espace fantasmé.
Jean-Benoît Nadeau, merci beaucoup. Le français, quelle histoire, avec un point d'exclamation, c'est aux éditions Télémac, cette vision du monde précisément qui fait défaut, mais cette histoire aussi qui est méconnue, que vous retracez à travers cette biographie, une épopée de la langue française, avec une couverture que je vous laisse décrire quand même, qui est un petit peu amusante.
Oui, c'est un valet de pied du 18e siècle tenant un lampion qui parle à une maman chinoise dont le ballon... Oui, c'est pas un ballon, c'est une baguette.
C'est une baguette.
Alors, c'est une illustration cocasse.
Et c'est pour montrer la richesse, la profondeur, l'étendue de la langue française.
Et la diversité.
Merci beaucoup, Jean-Benoît Nadeau. Je rappelle que vous êtes journaliste à Montréal, au Québec, au magazine Actualité, que c'est déjà votre ouvrage après Passifous et Français qui sera réactualisé. D'ailleurs, on pourra avoir l'occasion d'en parler une autre fois. C'est votre second ouvrage sur la langue française? Enfin, qui traite des Français.
Oui, en fait,
de la France.
Même le troisième, parce que j'avais publié aussi « Les Français aussi ont un accent » en 2002. Et c'est peut-être même le quatrième, parce que j'ai repris, c'est une deuxième édition de l'édition en langue anglaise. Parce que j'avais publié « The Story of French » en 2006. Et j'ai insisté auprès de mon éditeur en 2010, quand on y travaillait, pour lui dire « Je veux réécrire le livre ». Donc, je l'ai repris entièrement parce que je voulais que l'argumentaire soit plus finement travaillé pour le public francophone, notamment français.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est à retrouver aux éditions Télémac, Le Français, quelle histoire!